France Musique. Musicopolis. Vsevolod Zaderatsky, la musique pour vivre. Je commencerai par une question. Est-il possible qu'un compositeur disparaisse complètement des radars de l'histoire de la musique ? Et la réponse, bien sûr, on en connaît un grand nombre dont il ne reste quasiment rien. J'ai souvent parlé dans Musicopolis de musiciens du Moyen-Âge ou de la Renaissance, dont on connaît à peine quelques œuvres et dont on ne sait rien de la vie. Parfois même, il reste seulement la mention d'un nom dans un livre. Et cela, même pour les plus grands, même pour Josquin des Prés, c'est dire. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de l'ancien temps. Je vous parle du siècle dernier et je repose ma question. Est-il possible qu'on ait loupé un compositeur important ? À nouveau, la réponse est oui. Sauf que ce n'est pas le temps qui a fait son œuvre en faisant disparaître les traces petit à petit au fil des siècles. C'est la folie implacable d'un système politique qui a voulu effacer radicalement une existence. Pour vous situer Vsevolod Zaderatsky, le compositeur dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui dans Musicopolis, voici ses dates, 1891-1953. Si vous connaissez un peu la musique russe, vous risquez de penser que je me suis trompée, ce sont là les dates de Prokofiev. En effet, mais ce sont aussi celles de Zaderatsky. Si on commence aujourd'hui à parler de Vsevolod Zaderatsky, c'est qu'il est passé du temps depuis la chute de l'URSS. Des recherches ont pu être faites, des articles publiés, même une biographie. La première partition était parue en Ukraine dans les années 70, 20 ans après la mort du compositeur. Mais lorsque le créateur n'est plus là pour défendre ses œuvres, on dirait qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour les faire connaître. Heureusement, son fils, son petit-fils et tout un réseau de musiciens bouleversés par sa musique s'attachent depuis des années à soulever le pesant couvercle soviétique et à partager ses œuvres selon leurs moyens. Aujourd'hui que des recherches biographiques ont été faites sur Vsevolod Zaderatsky, que sa musique commence à être publiée et enregistrée, on peut se faire une idée de l'engrenage qui a mené à ce qu'il soit rayé du paysage musical de son époque. Thank you. Vsevolod Zaderatsky est né en 1891 à Rovno, une petite ville d'Ukraine. Son père est ingénieur des chemins de fer, sa mère vient d'une famille polonaise noble appauvrie. Après avoir passé son enfance dans sa ville natale, Vsevolod va au lycée à Koursk, au sud de Moscou. À 19 ans, il est à Moscou pour un double cursus, à la faculté de droit et au conservatoire, où il étudie la composition avec Serge Taneyev, puis Mikhail Hippolytov Ivanov. Pour le piano, il a le professeur le plus exigeant de l'école et il a d'excellents résultats. En 1914, Vsevolod Zaderatsky se marie et en 1915 naît un petit garçon. Cette année-là, il est invité à enseigner au fils du tsar, le jeune Alexis Romanov. Il lui donnera des cours que nous appellerions aujourd'hui de culture musicale, lui parlant de l'histoire de la musique et lui jouant de nombreuses œuvres. Zaderatsky finit ses études en 1916 et il est tout de suite incorporé dans l'armée, puisque la Russie participe à la Première Guerre mondiale. Pendant la révolution de 1917, il s'engage dans l'armée blanche du général Denikin. Mais il abat un officier qu'il voit exécuter sommairement des prisonniers rouges. Il est obligé de s'enfuir. Ces deux moments de sa vie, la fréquentation du tsarévitch et la participation à l'armée blanche, vont sceller son destin. Ils lui seront toujours reprochés. En 1920, l'épouse et le fils de Vsevolod Zaderatsky ont réussi à s'enfuir du RSS. Ils rejoindront la France 3 ans plus tard. Ils ne se reverront jamais plus. Mais Vsevolod est arrêté en tant qu'officier de l'armée de Denikin. Condamné à mort, il est gardé dans une maison en ruine où, miraculeusement, un piano est resté debout. Il joue toute la nuit qui précède son exécution. Félix Dzerzhinsky, le chef de la Tchéka, la police politique, l'entend et signe sa grâce. Mais il est relégué à Riazan, au sud de Moscou, et privé de ses droits civils. Thank you. Dans la petite ville de Riazan, Vsevolod Zaderatsky travaille à l'école de musique. Il donne des cours de piano et il dirige l'orchestre local. Mais il n'a pas le droit de publier ses œuvres ni d'annoncer de concerts publics. En fait, son nom même ne doit pas être mentionné. Il est arrêté en 1921, relâché, arrêté à nouveau l'année suivante, relâché, arrêté encore en 1926. Cette fois-ci, il est emprisonné pendant 2 ans et tous les manuscrits de ses partitions sont détruits. Ce qui explique qu'aucune œuvre de lui d'avant 1928 n'existe. Il fait une tentative de suicide en prison. Mais lorsqu'il en sort, il se remet à composer. Et il couche sur le papier 2 sonates pour piano et 1 cycle de miniatures. En 1930, 2 ans après être sorti de prison, Vsevolod Zaderatsky est autorisé à emménager à Moscou. C'est pour lui une ouverture salutaire et bienvenue que de vivre dans une grande capitale musicale après 10 ans dans une petite ville. Il fréquente des musiciens, il est reconnu, mais il est toujours privé de ses droits civiques. Il s'inscrit à l'Association de musique contemporaine. Mais celle-ci est bientôt en butte aux attaques de l'Association russe des musiciens prolétaires et dissoute par les autorités politiques. Vsevolod compose beaucoup, un opéra, des mélodies, des pièces pour piano, une sinfonietta pour cordes, une symphonie intitulée Fondation. En 1934, à la demande de fonctionnaires de l'Association des musiciens prolétaires, il est banni de Moscou et se rend à Yaroslavl, petite ville à 200 km au nord. Il tombe amoureux et il se marie, un petit garçon va naître. Il enseigne à l'école de musique, il est très entreprenant et il crée une compagnie d'opéra et un orchestre. Il s'inscrit en faculté de mise en scène. On joue les musiques de scène qu'il écrit pour le théâtre, mais de manière anonyme. Son nom reste banni de la scène publique. Dans son travail, Vsevolod Zaderatsky est très exigeant, ce qui lui cause des inimitiés, qui prennent bientôt la forme de dénonciations. En 1937, année de grande purge, il est arrêté à nouveau, jugé à huis clos et condamné comme contre-révolutionnaire. Il est notamment accusé d'avoir soutenu les musiciens fascistes, autrement dit d'avoir joué du Strauss et du Wagner. Il est condamné à 6 ans de goulag et envoyé en Sibérie, au nord-est, dans le bassin de la Kolyma. Le voyage est déjà une peine. Train jusqu'à Vladivostok, puis bateau jusqu'à Magadan. Les prisonniers sont ensuite emmenés dans des mines d'où l'on extrait de l'or. Les pertes humaines sont énormes. 30% la première année, quasiment 100% après 2 ans. Avant son arrestation de 1937, Vsevolod Zaderatsky a pris soin de cacher ses partitions. Son expérience antérieure de la prison va lui servir dans les camps de la Kolyma. Il sait en particulier que les prisonniers, tout comme les gardiens, ont besoin de quelques distractions. Et il est un merveilleux conteur. Il raconte tout, l'histoire ou des histoires. Il se sert de ce talent pour adoucir un peu la détention de ses compagnons, ce qui profite aussi aux gardiens. Il en tire quelques avantages. Parfois un léger adoucissement des conditions de travail, une réduction des énormes journées. Et surtout, il obtient d'avoir un peu de papier et un crayon. Le papier que les gardiens accordent à Vsevolod Zaderatsky n'est pas un papier à musique, on s'en doute, mais des petits carnets, des feuilles détachées, des formulaires de télégrammes. Il a promis de n'écrire que des notes, pas de mots. Il utilise son papier au mieux, trace des lignes là où il peut. Il n'a pas de gomme, il doit être efficace, il n'a pas droit à l'erreur. Sur certains papiers, il ne peut écrire qu'une seule mesure dans la largeur. Mais il a besoin de composer, un besoin irrépressible. Dans le camp de la Kolyma, sur ces petits morceaux de papier ou petits carnets, Vsevolod Zaderatsky compose. Il a choisi de s'attacher à une forme ancienne, le prélude des fugues. Il est le premier au XXe siècle, avant Hindemith, avant Shostakovich. Retour à Bach, retour à l'essentiel lorsque la vie ne paraît plus possible. Bien sûr, il n'y a pas de piano au camp, sans doute pas de table non plus. Il survit dans un froid sibérien au sens propre, avec des températures négatives au moins 6 mois de l'année. Un sol constamment gelé, peu de nourriture. « l'épouse de Vsevolod Zaderatsky se démène à Yaroslavl pour le faire libérer. En juillet 1939, 2 ans après sa condamnation, il quitte le camp de la Kolyma et le long voyage de retour commence. Avec lui, les précieux petits carnets, feuilles, formulaires de télégrammes sur lesquels il a composé un cycle presque complet de 24 préludes et fugues. En 1940, il rejoint enfin sa famille à Yaroslavl. En rentrant du camp de la Kolyma, Vsevolod Zaderatsky n'a toujours aucun droit civique et toujours pas le droit de s'installer dans une grande ville. Avec sa famille, il va vivre dans plusieurs petites localités, à Merk, à Krasnodar, à Jytomyr, à Yaroslavl à nouveau. En 1948, comme de nombreux compositeurs dans la ligne de mire du parti, il est à nouveau inquiété, mais pas arrêté. En 1949, il est autorisé à s'installer à Lvov, en Ukraine. Il va pouvoir enseigner à l'école de musique et reprendre de nombreuses activités. Il compose. Fidèle à sa devise, « Nulla dies sine linea », pas un jour sans écrire une ligne. Il meurt en 1953 à la tête d'un catalogue impressionnant, dont aucune œuvre publiée. C'est seulement dans les années 70 que ses préludes pour piano seront édités en Ukraine. Depuis le début de ce siècle, sa redécouverte s'est accélérée et on commence à replacer Vsevolod Zaderatsky à sa place dans l'histoire de la musique russe. La fugue numéro 7, en La majeur, des 24 préludes et fugues de Vsevolod Zaderatsky, joué ici par Yasha Nemtsov, qui a enregistré à peu près l'intégrale des œuvres pour piano de Zaderatsky. Vous trouverez sur le site un lien pour une biographie et la musique de Vsevolod Zaderatsky. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Benjamin Vignal pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.